Bonsoir. Alors, comme vous l'avez peut-être remarqué sur l'écran, il y a un petit changement aujourd'hui, puisque dans le cycle de conférences de l'ISM de cette année, une autre conférence était prévue aujourd'hui, si je ne m'abuse, sur la psychanalyse ou quelque chose comme ça. Alors, malheureusement, le conférencier a eu un empêchement de dernière minute que nous avons appris hier. Donc, au pied levé, nous avons trouvé une solution. Et donc, c'est Bernard Héberger, le directeur de l'ISM, qui devait intervenir plus tard dans l'année, au mois de mai. Si vous avez le programme, vous pouvez donc voir. Et donc, qui va faire la conférence aujourd'hui? Alors, vous ne perdez pas au change. D'ailleurs, peut-être que la conférence sur la psychanalyse aura lieu donc du coup en mai.
Ce n'est pas sûr, on va voir.
Bon, d'accord. Voilà, donc il faut que vous changiez un peu vos dispositions psychologiques et intellectuelles et que donc vous vous apprêtiez à entendre une magnifique conférence de mon collègue et ami Bernard Héberger, que je vais vous présenter, même si peut-être vous le connaissez déjà. Donc Bernard Héberger est historien arabisant qui a fait ses classes dans différentes institutions, mais donc y compris à travers un séjour à Damas et puis un long séjour aussi à l'école française de Rome, ce qui lui a permis de travailler beaucoup aussi sur les archives du Vatican. Et justement parce que Bernard Héberger est spécialiste des chrétiens d'Orient et des relations entre christianisme et islam au Proche-Orient. Il est donc actuellement, comme je vous l'ai dit, directeur de l'ISM, mais il est également, donc, enfin, surtout son job est d'être directeur d'études à l'EHESS ainsi qu'à l'École pratique des hautes études. Sa période de spécialisation est plutôt le 15e-18e siècle, mais il a travaillé également sur des périodes plus récentes. Et je voudrais citer certains de ses ouvrages, individuels ou collectifs. Sa thèse, qui a été publiée en 1994, était sur les chrétiens du Proche-Orient au temps de la réforme catholique.
Elle va reparaître cette année.
Ah oui, parce que j'allais dire, ça fait un moment, hein, donc 94, oui.
Elle va
reparaître.
Elle va être rééditée.
Bravo.
En collection de poche moins chère.
Ah, très bien. Donc, j'espère que vous ne l'avez pas acheté avant et que vous pourrez donc l'acheter aujourd'hui, enfin, prochainement. Ensuite, il a fait un livre, alors qu'il faut absolument que vous achetiez, qui existe en anglais aussi maintenant, j'ai vu.
Oui.
Voilà, c'est...
Et en arabe.
Et en arabe, mais alors il faut quand même que je dise de quoi il s'agit. Il s'agit d'un livre sur Hindia, qui était une à la fois mystique et criminelle. Donc, vous voyez, là, je ne vous en dis pas plus, mais non, c'est quelque chose, c'est à travers le cas de cette mystique donc, auquel il est arrivé des choses, donc une mystique maronite, je ne dis pas de bêtises,
oui.
du 18e siècle. Bernard Héberger a étudié les transformations du croire chez les chrétiens d'Orient et les rapports entre justement le Vatican et les chrétiens du Proche-Orient. Donc c'est un livre très, très important. Il a également travaillé avec d'autres sur l'islam des marges. Alors, vous voyez cette question, enfin, en prenant le prisme des chrétiens d'Orient, ça lui permet aussi d'étudier l'islam, notamment à travers la question des missions chrétiennes qui ont œuvré dans des régions musulmanes et notamment parmi des groupes marginaux. Ou disons des groupes de l'islam périphérique qu'on a qualifié souvent d'hétérodoxes. Donc c'est un livre qui s'appelle « Sur l'islam des marges », un livre collectif. Et puis, je finirai en disant que Bernard, il y a aussi, oui, un livre collectif, qui fait plus exactement un numéro de revue sur le corps et le sacré, coédité par avec Catherine Mayer-Jaouen. Et puis, Bernard Héberger a fait également des synthèses sur les chrétiens du Proche-Orient. Et notamment, donc il y avait eu un numéro, enfin les chrétiens dans le monde arabe, un numéro d'autrement, hein, en 2003. Et puis surtout, donc il y a un livre qui est paru l'année dernière chez Payot en 2013. Donc là aussi, il s'agit d'un format poche sur donc les chrétiens au Proche-Orient. Et c'est un livre qui a reçu un prix. Voilà. Donc. Bernard, donc justement, va nous parler aujourd'hui dans ce cycle de conférences sur liberté et contrainte dans les sociétés musulmanes, du cas des minorités chrétiennes en terre d'islam. De quelles libertés ont-elles disposé? Mais justement, enfin, faut-il parler en termes de liberté et de contrainte? Je crois que ces interrogations vont toucher donc à la question du pluralisme religieux en terre d'islam, et cela avec donc une profondeur historique, mais tout en abordant aussi la question d'évolution plus contemporaine. Voilà, donc. Merci. J'ai déjà trop parlé. Je passe la parole à Bernard Héberger.
Merci, Nathalie. Alors, Nathalie aussi a fait l'amitié de présider cette séance au pied levé. Ce n'était pas non plus prévu. Donc, voilà. Donc, c'est le destin du directeur de boucher le trou et de venir intervenir quand les autres ne sont pas là. Mais comme c'était prévu pour la fin de l'année, ça va, c'est pas trop grave. Donc je vous remercie d'être venus aussi nombreux, et je dirais aussi que peut-être vous découvrez aujourd'hui que je suis un spécialiste des chrétiens dans le monde musulman. C'est un peu bizarre qu'un spécialiste des chrétiens soit directeur de l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman, mais je crois que c'est pas complètement par hasard, parce que je pense que j'ai toujours voulu travailler sur les chrétiens du monde musulman en les situant dans leur contexte et dans leur rapport avec la société dominante, sur laquelle, sans prétendre être un spécialiste, j'ai quand même quelques idées aussi. Voilà. Donc, je commence par cette image où vous avez un bismillah en haut, mais qui n'est pas un bismillah musulman, qui est un bismillah chrétien. Bismillah wal ibn wal ruh al-Qudus, donc au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est le genre de formule qu'on trouve sur tous les documents chrétiens arabes, et qui, vous voyez, qui a déjà un rapport, même si c'est une formule chrétienne évoquant la Trinité, qui a quand même un rapport avec la formule musulmane. Il y a d'ailleurs d'autres formules qui sont plus proches de la formule musulmane et qui sont parfois utilisées par certains chrétiens. Ici, ça vient d'un manuscrit d'Alep, d'un règlement de confrérie catholique du XVIIIe siècle. Bien. Voilà une image de Saint-Siméon au nord d'Alep, en tout cas dans l'état où c'était il y a quelques années. Je ne sais pas dans quel état c'est aujourd'hui. Donc vous avez au Proche-Orient de nombreux sites qui évoquent la présence du christianisme. Et donc je vous rappelle que le christianisme est autochtone dans cette région depuis l'origine, que le christianisme s'est implanté très tôt dans la région, y compris parmi les nomades et les habitants des oasis de l'Arabie. Au second siècle de l'islam encore, on pouvait voir des tribus chrétiennes qui se déplaçaient accompagnées de leur évêque. Les langues dominantes dans la région n'étaient pas l'arabe, mais le syriaque sous diverses formes, le grec et le persan. Mais très vite, l'arabe a été adopté par la majorité des habitants de la région, et les premiers théologiens chrétiens à écrire en arabe apparaissent au IVe siècle, donc environ deux siècles après la conquête musulmane. Mais les découvertes les plus récentes sur l'origine de la langue arabe montrent que la langue arabe est apparue sur les marges de l'Arabie, et notamment dans les territoires chrétiens, le royaume Hassanide et l'Armide, qui faisaient la bordure nord de l'Arabie. Je crois que les premières inscriptions en arabe qu'on a aujourd'hui sont des inscriptions chrétiennes. Donc l'arabe était la langue dominante, la langue de culture, la majorité des chrétiens du Proche-Orient, très tôt après la conquête musulmane, elle l'est encore aujourd'hui. Mais d'autres langues ont été pratiquées par eux, le syriaque, qui s'est parlé et se parle encore en haute Mésopotamie jusqu'à nos jours. Et puis, on a des chrétiens qui, jusqu'au XXe siècle, parlaient le kurde, parlaient le turc. On avait des arméniens de langue turque, mais d'alphabet arménien. On avait des grecs de langue turque, mais d'alphabet grec. On avait des chrétiens de langue arabe, mais d'alphabet syriaque. Ce christianisme, encore aujourd'hui, est très divers. Là, j'ai fait un mélange de trois images que j'ai prises dans trois endroits différents. Vous voyez ici un vieil homme qui monte dans une église qui ressemble à une église italienne un dimanche, c'était il y a 3 ans. C'est dans un village du Liban. Et donc c'est une église maronite du Liban. Et ça n'a rien d'exotique pour un Européen. Au-dessus, vous avez une image que j'ai prise à Madaba en 2003. C'est la boutique d'un chrétien de Madaba, en Jordanie. Vous voyez qu'il y a des inscriptions sur la façade qui indique à la fois qu'il est arabe et qu'il est chrétien. Et on pourrait aller plus loin. Ici, on est en Jordanie. Donc les chrétiens de Jordanie ont complètement épousé la cause palestinienne. Et « War good for nothing » et « Arabs want peace » est une allusion à la fois à l'invasion de l'Irak par les Américains et aussi à la situation en Palestine. La troisième image vient d'un village près de Sohag, en Haute-Égypte. Et là, on est encore dans un univers tout à fait différent. C'est le tombeau d'un saint mort dans les années 60. Autour de ce tombeau s'est construit un grand complexe, une espèce de parc d'attractions, avec un immense magasin où on peut acheter des bondieuseries et puis des tables, etc., pour pique-niquer en famille. Et vous voyez donc les dévots égyptiens sur ce tombeau. Vous voyez l'infirme assis contre le tombeau pour en recueillir la baraka. Vous voyez le père qui pose son gamin sur le tombeau. Et vous voyez ces typiques égyptiens de Haute-Égypte en galabia qui sont en train de prendre du sable. Il y a un récipient avec du sable sur le tombeau. Ce sable capte la baraka du tombeau et on peut ensuite emmener donc la baraka du tombeau avec ce sable. Voilà, donc ça c'est pour vous attirer votre attention sur la très grande diversité de ce christianisme suivant les territoires, suivant les lieux. Donc il ne faut pas éviter de mettre un peu tout le monde sous le vocable chrétien d'Orient, qui est lui-même un vocable un peu tendancieux, qui est apparu au XIXe siècle dans le contexte des interventions de la France au Proche-Orient. Alors on va d'abord parler un peu des dénominations, de la répartition, du nombre. Là vous avez une carte qui vous montre le Proche-Orient avec les différents sièges des différentes églises orientales. On va pas faire le chapitre habituel sur les différentes églises, leurs origines, etc. Donc retenez les coptes qui sont essentiellement centrés sur l'Égypte et qui sont complètement identifiés à l'Égypte. Les maronites qui sont centrés sur le Liban, on en reparlera, mais il y a des maronites dispersés quand même dans les autres pays de la région. Les grecs orthodoxes et melkites, on va les appeler tous melkites, ce sont les byzantins, donc les chrétiens appartenant à l'église byzantine, qui eux sont présents dans toute la région, mais qui sont très présents au Liban, en Syrie et en Palestine, Jordanie. Et puis les Assyriens et Chaldéens sont plutôt les chrétiens de Mésopotamie. C'est l'Église qui est apparue en Perse à l'époque du conflit entre Romains et Perses, donc tout au début du christianisme, et qui s'était étendue très à l'est jusqu'en Chine avant de se réduire à la fin du XVe siècle. Les Syriens et Syriens catholiques, c'est une église qui s'est développée au contraire du côté romain, donc plutôt dans la Syrie actuelle, un peu agrandie, hein, du côté de Mardin et de l'Anatolie. Et donc cette église aujourd'hui a son siège pour les Syriens, pour ce qui reste des Syriens, à Damas. Les Maronites, les Syriens et les Assyro-Chaldéens ont cette caractéristique d'utiliser le syriaque comme langue liturgique. Du point de vue théologique, les Coptes, les Syriens sont proches du point de vue théologique avec les Arméniens, dont j'ai pas encore parlé. Les Arméniens ont leur centre très loin à l'est, du côté d'Etchmiadzin, mais en fait, il y a des Arméniens dispersés dans toute la région jusqu'au Caire depuis le Moyen-Âge. Et donc voilà à peu près les différentes églises pour aller très vite. C'est la plupart des divisions entre ces églises est apparue avant la conquête musulmane. Donc il y avait déjà plusieurs églises en concurrence avant. Et il faut aussi retenir une chose importante, c'est que la plupart de ces églises étaient déjà dominées avant la conquête musulmane, n'ont jamais été identifiées à un État et n'ont jamais été du côté du pouvoir. Et ont d'ailleurs été déjà persécutés avant l'arrivée de l'islam, souvent, donc ont connu des périodes de persécution. Et dernière chose, cette carte actuelle, on reparlera de cette carte, parce qu'il y a les frontières des États, c'est très important de regarder où se situent les églises par rapport aux États. Les sièges des patriarcats ne correspondent pas forcément aux gens qui en dépendent, hein. Il y a donc des gens qui sont de l'autre côté de la frontière et ça pose des problèmes importants. Et encore une chose, beaucoup de ces églises sont déjà des églises de réfugiés. Les Arméniens de la région sont souvent des réfugiés de 1915 venus de l'Anatolie. Les Syriens sont aussi des réfugiés venus d'Anatolie et sont nombreux au Liban et en Syrie. Les Assyro-Chaldéens aussi, en partie, ont dû se déplacer, ne sont plus toujours dans leur zone d'origine. Ça aussi, par rapport à une idée très habituelle quand on parle des chrétiens d'Orient, c'est l'idée de leur enracinement, de leur fidélité au territoire, etc. Elles sont toutes déjà des histoires de mobilité, de transfert, etc., sauf peut-être les Coptes, qui sont les seuls qui sont réellement identifiés à un pays depuis toujours. Alors, le nombre. J'ai pris une carte parue dans Libération le 3 janvier 2011. Je trouvais ça intéressant parce que c'est bien la première fois de l'histoire de Libération que Libération a fait un dossier sur les chrétiens d'Orient, ce qui montre aussi une évolution chez les gens qui s'y intéressent. Normalement, c'était un sujet de droite. Donc aujourd'hui, c'est plus tellement le cas. Tout le monde s'intéresse à la question, même Libération. Les chiffres valent ce qu'ils valent, mais de toute façon tous les chiffres valent ce qu'ils valent parce que on n'a pas de bons chiffres. Et on comprend bien pourquoi on n'a pas de bons chiffres, parce que les chiffres, c'est politique. Hein, quand on veut défendre une cause, il faut qu'on soit nombreux, plus nombreux qu'on ne l'est en réalité. Inversement, il y a des États qui ont tendance à diminuer le nombre de chrétiens présents sur leur territoire, pour différentes causes aussi. Alors, ce qui est frappant sur cette carte, c'est qu'il y a un pays où les chrétiens sont de loin le plus nombreux, c'est l'Égypte. Donc c'est là qu'il y a le plus grand nombre de chrétiens dans toute la région. Le tableau de Libération dit entre 5 et 8 millions, on peut dire quelque chose comme ça, hein, 6, 7 millions. Mais vous rencontrerez des Coptes qui vous diront 12, 15 millions. Et donc ça fait 7% de la population égyptienne. Donc l'Égypte est un pays où il y a une forte présence chrétienne en nombre, et caractéristique aussi de cette population, c'est qu'elle n'appartient pratiquement qu'à une église, à l'église copte. Le Liban, par contre, est le pays où il y a la plus forte proportion de chrétiens dans la population. Avec 1,4 million d'habitants, de chrétiens, ça fait à peu près un tiers de la population libanaise. Donc c'est le pays où la présence chrétienne est la plus visible, mais c'est un petit pays. Par contre, on a donc une très grande dispersion, une très grande variété des communautés chrétiennes, avec une domination d'une communauté, c'est la communauté maronite. Dans tous les autres pays de la région, vous voyez que les proportions sont assez faibles, Jordanie 5%, Syrie avant les événements... Peut-être que Libération avait un chiffre un peu bas, 4%. L'Irak, 600 000, 2%. Ça, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, on serait plutôt à 300 000, paraît-il. Hein. Donc, voilà. Je vais vous faire remarquer aussi qu'il y a toujours un problème des minorités chrétiennes en Turquie, mais le nombre de chrétiens autochtones en Turquie est infime, 0,1% de la population. Mais il y a quand même pas mal de problèmes, notamment liés au bien des chrétiens, à leur organisation, etc. Et dernière chose que je vous ferai remarquer, c'est que il y a un christianisme qui n'est pas autochtone, mais qui est de plus en plus nombreux dans la région. Au Maroc, en Algérie, le nombre de chrétiens augmente. Ce sont notamment des subsahariens. L'Arabie Saoudite, 1 million d'étrangers, il y a 1 million de chrétiens. Donc voilà, dans les pays du Golfe, vous avez partout des chrétiens. Ça, c'est intéressant à noter parce que ce n'est pas le christianisme autochtone, mais ça permet quand même de se dire que il y aura toujours des chrétiens au Proche-Orient et que les pays du Proche-Orient seront toujours obligés de se poser la question du pluralisme religieux. Alors, par rapport aux chrétiens autochtones, ces chiffres indiquent évidemment qu'il y a une baisse en proportion de la population, du nombre de chrétiens dans la population. Une baisse significative, puisqu'on dit que dans la région Palestine, Syrie, Liban et nord de la Mésopotamie, on était à 25% de chrétiens avant la Première Guerre mondiale. Donc, il y a une érosion pendant tout le XXe siècle, une érosion très importante. Une érosion qui suit au contraire une période de croissance. Hein, au XIXe siècle, il y avait une croissance forte de la proportion des chrétiens dans la population. Et d'autre part, l'érosion ne se traduit pas par forcément en chiffres absolus. Il y a beaucoup plus de chrétiens dans la région aujourd'hui qu'il n'y en a jamais eu en nombre, en millions. Hein. Donc... Alors c'est un thème qui revient souvent, le thème de l'érosion de la population chrétienne, et bien sûr, dans l'imaginaire européen en particulier, c'est toujours rattaché à la question de l'islam, l'islam persécuteur, etc., etc. Alors, il y a effectivement une série d'événements depuis le XIXe siècle qui ont marqué l'imaginaire des chrétiens de la région et qui ont marqué aussi l'imaginaire européen. Ces événements sont beaucoup plus liés au nationalisme depuis le XIXe siècle, que proprement à une persécution de l'islam sur les chrétiens. Donc, vous avez les massacres de l'Anatolie en 1915 hein, par les jeunes Turcs. Au même moment, en 1915, vous avez une famine qui emporte près d'un tiers de la population libanaise. On discute si c'est la faute des Ottomans ou si c'est la faute des Alliés qui ont fait le blocus de Beyrouth. Il y a ensuite le massacre et le déplacement des Assyriens de l'actuel nord de l'Irak, est de la Turquie et Iran. Et par la suite, déplacement des chrétiens du Sanjak d'Alexandrette lorsque la France cède ce morceau de Syrie à la Turquie, en gardant juste un petit village qui est le village de Kassab, village arménien juste à la frontière turque, d'où les Arméniens pouvaient braver les Turcs. Ce village vient d'être reconquis. Ces jours-ci, il y a eu une attaque des djihadistes sur le village et une contre-offensive syrienne de Bachar pour le reprendre. Donc, voilà, ça c'est, si vous voulez, ce qu'on appellerait aujourd'hui les phénomènes de nettoyage ethnique. Il y en a un autre très important que j'ai pas mentionné, c'est l'expulsion des Roumes, appelés grecs, donc de tous ceux qui appartenaient à l'église orthodoxe grecque d'Anatolie, mais qui souvent n'étaient pas grecs de langue, étaient même souvent turcophones. Donc il y a eu cet échange de population et cette expulsion des chrétiens grecs d'Anatolie après la Première Guerre mondiale. Parmi les autres événements politiques importants qui ont eu une conséquence sur l'érosion des chrétiens, c'est évidemment la création de l'État d'Israël, avec le déplacement des chrétiens de Palestine comme les musulmans. Ils ont subi la Nakba de 48, puis un nouvel exil au moment de l'annexion des territoires par Israël en 67. Enfin, il y a la guerre du Liban, 75-90, qui là aussi a occasionné énormément de départs. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que toute la question démographique ne se réduit pas à ces violences. Par exemple, la politique en Syrie et en Égypte ou en Irak, le socialisme de nationalisme, des nationalisation des entreprises et des écoles dans les années 60 a provoqué un départ important des minorités chrétiennes. Et par exemple, en Égypte, il y a eu l'expulsion des Chaouem, c'était les Syro-Libanais qui étaient nombreux et qui étaient en général chrétiens, ils ont été expulsés par Nasser. Alors évidemment, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas la question de l'islam. Il y a une islamisation de la société ces dernières décennies qui certainement rend les chrétiens plus visibles en tant que minorité et les isole davantage, notamment dans l'espace public. L'exemple banal que tout le monde vous dira, il était plus facile pour une femme de se promener bras nus dans les rues de Damas en 1960 qu'aujourd'hui. Et puis il y a des comportements discriminatoires envers les chrétiens qui sont souvent pas des comportements inscrits dans la loi mais qui s'appliquent dans les administrations, dans l'enseignement. C'est le cas en particulier en Égypte depuis très longtemps. Et puis il y a des violences directement tournées vers les chrétiens, ciblées sur les chrétiens, les fameux attentats qu'il y a eu en Irak et en Égypte ces dernières années, qui ont souvent des causes locales et des causes globales. Donc il y a un contexte local, par exemple en Haute-Égypte, très souvent des conflits locaux autour de la terre et des choses comme ça. Et là-dessus, un contexte global, donc les djihadistes, les mouvements internationaux qui prennent les chrétiens pour cible pour des raisons de géopolitique. Mais je voudrais dire que même du point de vue démographique, il ne faut pas en rester seulement à cet aspect. Il y a un autre aspect très important, c'est simplement la dynamique démographique. Les chrétiens ont été très dynamiques du point de vue démographique au XVIIIe, XIXe siècle. Ils ont eu donc une croissance plus forte que les populations musulmanes. Donc ils ont augmenté en proportion dans la population. Et puis au XXe siècle, ils ont connu ce qu'on appelle la transition démographique avant les musulmans, c'est-à-dire la baisse de la fécondité des femmes, très forte, donc le nombre d'enfants par famille qui est réduit très vite chez les chrétiens, à un moment au contraire où la famille musulmane explosait. Au moment de la guerre du Liban, en 75-90, c'était un thème très important, l'érosion démographique chrétienne et au contraire l'explosion musulmane. Là-dessus, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, la situation est tout à fait différente, puisque la plupart des sociétés musulmanes de la région sont en train de faire leur transition démographique ou l'ont déjà faite. Au Liban, les femmes chiites n'ont pas plus d'enfants que les femmes chrétiennes aujourd'hui. Et donc la fécondité des musulmanes est en train de rejoindre la fécondité des pays occidentaux, des pays européens. Un des résultats, par exemple, de la révolution islamique en Iran, c'est d'avoir accompli cette révolution démographique. Les femmes iraniennes n'ont pas plus d'enfants que les femmes françaises. Donc, dernière chose pour la démographie, c'est l'importance de la diaspora, mais elle est très mal connue. Donc, la plupart des chrétiens d'Orient appartiennent à des églises qui sont plus nombreuses en exil que dans la région. Le diocèse maronite le plus important en nombre n'est pas au Liban, il est en Australie, c'est le diocèse de Sydney. Alors, deuxième chose, le deuxième sujet un peu attendu, donc, c'est le statut légal de ces chrétiens dans ces sociétés du Proche-Orient. Alors, je commencerai par une citation de Béchir Gemayel, le leader chrétien, dans un discours tenu le 14 septembre 1982, dit « Notre présence n'aura plus de raison d'être ni de sens si, en tant que groupe chrétien dans cet Orient, nous n'avons pas un pays qui, sans être encore une fois un foyer national chrétien, soit pourtant véritablement un pays pour les chrétiens, où nous pourrons vivre la tête haute sans que personne ne vienne nous dire à gauche « marche sur le côté gauche » comme on nous disait au temps des Turcs parce que nous étions chrétiens, sans que l'on nous oblige à porter quelques signes distinctifs sur notre corps ou nos vêtements pour nous marquer comme chrétiens, sans que nous soyons des citoyens vivant dans la zimitude des autres. Désormais, nous refusons de vivre dans la zimitude de qui que ce soit. Nous ne voulons plus être sous la protection de qui que ce soit. » Il paraît que c'est lui l'inventeur du terme de zimitude qui a été un peu mis à la mode. Après, on va revenir sur ce terme. C'est le terme, un néologisme pour évoquer la situation des chrétiens et des juifs en islam. Ce discours de Béchir Gemayel répond, je pense, à un discours d'Anwar el-Sadat du 14 mai 1980. Je demande maintenant à mes fils, les Coptes, qu'ils m'écoutent. Je vous dis et je dis à mon peuple que du jour où j'ai gouverné en Égypte, j'ai gouverné en tant que président musulman. Je dis qu'il faut appeler les choses par leur nom et que l'Égypte est un État islamique. Non pas un État islamique ordinaire, non. Il occupe une position de leader dans le monde islamique, une position de guide, car El-Azhar a préservé pendant 1000 ans l'héritage islamique, ainsi qu'en témoignent tous les musulmans. Il faut par conséquent que les démons de la fitna, la sédition, comprennent que l'islam est le garant véritable de la chrétienté en Égypte. Lorsque je dis président musulman d'un État islamique, cela ne signifie en aucun cas que je considère que les droits des musulmans passent avant ceux des chrétiens. Mais cet État est un État islamique depuis l'alliance contractée par le patriarche Benyamin. À cette époque, il envoya les chrétiens coopérer avec les armées arabes de Amr ibn Nas. Je dis que je suis le président musulman d'un État islamique qui sait quelle est sa responsabilité. D'après le texte coranique, je suis responsable des juifs et des chrétiens d'Égypte, de même que des musulmans. Alors c'est un texte qui est tout à fait, je pense, dans l'esprit, disons, de la tradition musulmane. Ces deux discours marquent pour moi le retour sur le devant de la scène de la question du traitement des minorités dans les pays majoritairement musulmans. Et la mise à la mode aussi ce thème du Zimmi. Pourquoi ? Parce que la crise des régimes nationalistes et jacobins commence à ce moment-là et on assiste à l'avènement de partis et de régimes islamistes, c'est-à-dire qui se réclament de l'islam et du droit musulman, comme le fait Sadat. Et donc ça pose de nouveau la question de la place des non-musulmans ou aussi des musulmans dissidents dans la nation. Notez que Sadat fait allusion à la fitna. Un chrétien qui contesterait le traitement des minorités en Égypte tel qu'il est fait par Sadat serait accusé de fitna. Et effectivement, aujourd'hui encore, par exemple, un chrétien qui conteste le fait qu'il a été déclaré musulman alors qu'il dit qu'il est chrétien est accusé de faire de la fitna taïfia en Égypte, qui est une accusation très grave. Donc, au nom de l'unité de l'État, de la nation, ce sujet ne doit pas être contesté. Le sujet des minorités ne doit pas être mis sur le devant de la scène. Et lorsqu'il y a des réclamations de minoritaires, ils sont accusés d'être manipulés de l'extérieur et donc de vouloir diviser la nation égyptienne. Bon, Sadat se réfère à l'histoire mythique des origines de l'islam pour légitimiser sa conception de la nation égyptienne fondée sur un pacte entre musulmans et chrétiens. Il ne s'agit donc pas pour lui d'une nation formée d'individus citoyens égaux devant la loi, mais d'un État constitué sur une base confessionnelle. Le président est le garant des bonnes relations entre les deux confessions qui composent l'Égypte. Il évoque les trois, théoriquement c'est les trois, mais les juifs ont à peu près disparu. Il fait allusion à ce contrat que le patriarche copte Benjamin aurait passé avec Amr, le conquérant musulman de l'Égypte, en 641. En fait, les récits de la conquête du Proche-Orient par les armées arabes s'accompagnent généralement de l'évocation de ces traités de paix passés avec les populations. Et ces conventions comprennent toujours un certain nombre de conditions qui font le traitement imposé par la suite aux gens du livre. Alors parmi ces conditions, il y a le paiement d'un impôt, l'obligation de loger et de ravitailler des troupes, l'interdiction d'aider les ennemis. En échange, les populations soumises auraient obtenu la protection des musulmans, ce qu'on appelle la zimma, et la garantie de leur liberté religieuse, juridique et individuelle. Alors, il faut bien savoir que cette histoire officielle de la conquête musulmane a été écrite à peu près 2 siècles après les événements, sous les Abbassides. Et elle a été écrite dans le cadre de la pensée juridique de cette époque-là, qui fonde le traitement des incroyants sur l'idée d'un contrat de protection, ahd zimma, donc par lequel ils deviennent des protégés des zimmis. Donc, en écrivant au IXe siècle, les gens qui ont écrit cette histoire ont tenté de légitimer les principes et la pratique de leur époque, plus de 200 ans après les événements, en évidemment se légitimant par la tradition prophétique elle-même ou par la référence au premier calife. Alors, dans cette histoire telle qu'elle se raconte en général, Mohammed aurait en effet passé de tels traités, notamment avec les chrétiens de l'oasis de Najran en Arabie, et c'est le cas le plus documenté, le plus discuté. Et puis, le calife Omar Ier, 634-644, est souvent indiqué comme l'auteur de dispositions imposées aux vaincus au moment de la conquête. En fait, donc, à cette époque-là, à l'époque des Abbassides, quand on raconte ces histoires-là, il faut composer un récit de la conquête conforme à l'idéologie dominante. L'histoire d'une paix islamique imposée par les premiers héros de l'islam, ce qu'un historien a appelé une histoire islamique du salut. Il était notamment crucial dans cette pensée juridique qui apparaissait à ce moment-là, de bien déterminer le mode de conquête, parce que le traitement des immis dépendait du mode de conquête. Il y a les écoles juridiques qui tirent des conclusions différentes suivant le mode de conquête. Alors, la principale obligation qui est faite dans ces textes et dans ces dispositions juridiques qui se construisent donc à partir des Abbassides essentiellement, c'est le versement d'une capitation. Le versement d'une capitation de jizya, ça c'est l'obligation qui est déjà dans le Coran. C'est la seule d'ailleurs de ces obligations qui est déjà dans le Coran. Et en principe, les hommes adultes doivent payer individuellement cette capitation. En réalité, dans les faits, très souvent, elle est perçue du point de vue communautaire, ce qui introduit la notion de responsabilité collective pour l'impôt et entraîne les hiérarchies ecclésiastiques à s'occuper de faire rentrer l'impôt. Et il arrive aussi qu'un évêque ou un patriarche soit tenu pour responsable si l'impôt ne rentre pas. Donc on voit assez souvent dans les documents les patriarches et les évêques s'occuper de cette question de l'impôt. On a des règlements qui disent que un règlement d'Alep à Alep, il devait y avoir un problème d'alcoolisme. Il y a pas mal de textes qui parlent d'alcoolisme au XVIIe, XVIIIe siècle. Et donc, il y a un texte qui dit qu'il faut pas se ruiner en Arak, il faut économiser de l'argent pour pouvoir ensuite payer la capitation pour qu'il n'y ait pas de désordre. Alors, en fait, pour bien comprendre le poids que représente cette capitation, il faudrait en savoir beaucoup plus sur les modalités de répartition et de perception. Et on ne sait pas encore grand-chose là-dessus. En tout cas, il y a des dispositions qui semblent varier suivant les époques et suivant les lieux. En tout cas, cette question de l'impôt a entraîné de graves divisions dans les communautés et a conduit un certain nombre de conversions à l'islam. Ça, c'est sûr. Les autres prescriptions concernant les chrétiens et les juifs ne figurent pas directement dans le Coran et ont donc été élaborées par les juristes musulmans entre le IIe et le IVe siècle de l'Égypte essentiellement. Obligation de porter des vêtements distinctifs, la couleur des chrétiens c'est le bleu, la couleur des juifs c'est plutôt le jaune, interdiction de monter à cheval, de porter des armes, d'habiter une maison qui surplombe la maison d'un musulman, interdiction d'épouser une femme musulmane, et puis un certain nombre de restrictions à l'exercice du culte. Donc il ne faut pas construire des nouveaux lieux de culte, de sonner les cloches, organiser des manifestations religieuses sur les places publiques, etc. Alors, on a longtemps cherché une sorte de code du zimmi, une sorte de statut du zimmi, et on a effectivement un texte qui est appelé le pacte de Omar, donc qui remonte soi-disant au deuxième calife, mais qui en fait est beaucoup plus tardif. Il date la version la plus ancienne qu'on a date du XIIe siècle, je crois. Ce texte est extrêmement restrictif pour les chrétiens. C'est une sorte de collection de vexations. Et en tout cas, ce n'est pas un code, et il n'a jamais été appliqué à la lettre. Et d'ailleurs, c'était pratiquement impossible à appliquer quand on regarde la collection de restrictions qu'il comporte. Donc c'est plutôt une espèce de texte de référence, une collection de dispositions rassemblées par les juristes, qu'un véritable code. En tout cas, ces mesures ont eu effectivement une influence considérable sur la vie des gens. Par exemple, on a à Alep plusieurs règlements de la fin du XVIIIe siècle qui rappellent que dans les bains, les chrétiens, les juifs doivent porter des signes distinctifs. Bon, le fait qu'il y ait plusieurs règlements indique que les règlements n'étaient pas très bien appliqués. Les bains devaient bien vivre, attirer des clients, donc ils n'y regardaient sans doute pas de trop près. Il y a aussi des différences importantes. Il faut noter les différences importantes, notamment entre les villes et les campagnes. Beaucoup de chrétiens sont des ruraux, vivent dans les montagnes, vivent dans des campagnes dans un ordre tribal et coutumier. Le droit islamique, les dispositions que je viens d'évoquer, s'appliquent de façon beaucoup plus nette en ville que dans ces zones campagnardes ou tribales. Pour vous donner un exemple, il y a un jeune d'Alep, un jeune maronite d'Alep qui s'appelle Hanadiab, qui en 1707 arrive du côté entre Tripoli et Beyrouth au Liban, sur la côte, et il rencontre là des gens portant des turbans blancs, armés jusqu'aux dents, montés à cheval, et il a peur. Et il pense que c'est des musulmans. On lui dit, mais non, on est des maronites comme toi, on est les gouverneurs du pays. Donc dans ce coin-là, il est tout à fait possible d'être porter le turban blanc, d'être armé, de monter à cheval, ce qui est tout à fait impossible pour un chrétien d'Alep. Quand il arrive après à Beyrouth, il veut mettre son turban bleu comme à Alep, et son copain de Beyrouth lui dit « Non, non, mais ici tu peux mettre ce que tu veux, tu peux même mettre un turban vert si tu veux, personne ne t'embêtera. » Turban vert étant en principe réservé aux descendants du prophète, au Ashraf. Donc vous voyez, à peu de distance, d'un endroit à l'autre, ces dispositions changent beaucoup et s'appliquent de façon tout à fait différente. Alors les principales dispositions concernent les lieux de culte, ce qui fait que une caractéristique des chrétiens orientaux, c'est d'avoir presque tous des refuges montagnards ou désertiques. Bon, à gauche, je vous ai mis un lieu très célèbre chez les maronites, c'est le monastère Saint-Élisée dans la vallée de la Kradisha, qui est le bastion maronite de la haute montagne libanaise. Et puis à droite, un autre bastion, c'est le monastère Saint-Paul dans le désert de la mer Rouge. Donc il y a la symbolique du lieu, du désert et de la montagne, c'est aussi une symbolique liée à l'érémitisme, au monachisme, etc. Et c'est aussi des lieux de plus grande liberté pour y pratiquer le culte, pour se retrouver entre soi à certains moments de l'année. Il y a des traditions d'estivage dans les monastères. Par exemple, les gens de Damas passent toujours un moment de la fin de l'été à Saïdnaya ou à Mahaloula dans la montagne où l'air est meilleur et où ils sont entièrement entre chrétiens. Ce sont aussi des... Oui, même le monastère copte que je vous ai montré tout à l'heure, là où il y a le tombeau du saint, voilà, là il y a ce grand parc d'attractions autour, c'est un endroit où les coptes sont seuls, où ils sont entre eux, et où j'ai vu par exemple des filles jouer au football. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits en Égypte où les filles peuvent jouer au football. Donc, voyez, ce sont des lieux comme ça de refuge où on se retrouve entre soi. Dans les périodes difficiles, les monastères ont aussi été des lieux où les laïcs se réfugiaient, les gens poursuivis se réfugiaient, et où on mettait ses biens, on cachait ses biens quand il y avait besoin de les cacher. En ville, évidemment, il y a beaucoup plus de discrétion. Ici, vous avez le vieux quartier chrétien d'Alep, qui date du 15e, 17e siècle. Et derrière ce haut mur, ici, vous passez la petite porte. C'est là que se retrouvent toutes les vieilles églises d'Alep, deux églises arméniennes, une église syriaque, une église melkite et une église maronite. Dans une petite cour, derrière ce mur, on ne voit rien de l'extérieur, et toutes les cérémonies se passent à l'intérieur de la cour. Hein, donc, et on est dans un quartier qui était pratiquement entièrement habité de chrétiens, donc il y avait très peu de voisinage musulman, mais il y avait quand même une très grande discrétion par rapport à ça, et une très grande modestie aussi. Alors, au XIXe siècle, les choses changent. Toujours à Alep, vous voyez là des églises dans des styles européens et beaucoup plus triomphalistes, construites au XIXe siècle, surtout dans la deuxième partie du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Donc, l'image du christianisme change dans la ville même. Hein, on a une autre image, un autre affichage. Et il y a d'ailleurs à ce moment-là des conflits autour de cet affichage. À Alep, en 1850, il y a eu des émeutes contre les chrétiens, en partie provoquées par une procession organisée par le patriarche grec catholique qui est rentré à cheval dans la ville. Voilà au Caire, donc une église traditionnelle qui est enterrée sous le niveau du sol, il faut descendre pour y entrer. Le clocheton est évidemment un clocheton récent qui n'existait pas jusque sans doute au début du XXe siècle. Mais on vous dit souvent qu'aujourd'hui il est très difficile de construire des églises en Égypte, mais quand même, elles sont partout et elles sont massives et elles sont énormes. Ici, une vue d'Assouan. Lorsque vous allez à Assouan, quel est le bâtiment qui domine toute la ville? C'est la cathédrale copte. Vous ne voyez que ça. Et la nuit, elle est éclairée. Ici, on est au cœur du Caire, la colline du Mokattam, la colline des chiffonniers du Caire. Il y a un prêtre charismatique qui, depuis l'an 2000 à peu près, a complètement transformé cette colline et y a fait réaliser ses sculptures et ses images chrétiennes, ses croix, etc., par un sculpteur, je crois, d'origine polonaise. Donc, voyez, aujourd'hui, notamment en Égypte, on parle de la difficulté de construire des églises, mais en réalité, il faut voir ça dans la compétition entre musulmans et chrétiens. Donc, il y a une compétition entre construire des grandes mosquées, des grandes églises, et à qui construit le premier, qui construit le plus grand et le plus haut. Et effectivement, dans cette course, les musulmans sont favorisés. Donc, lorsque les chrétiens veulent construire une église, il y a un règlement qui dit qu'il ne doit pas y avoir une mosquée à 1 kilomètre ou quelque chose comme ça, enfin à une certaine distance. Généralement, les musulmans se débrouillent pour acheter un terrain et commencer une mosquée avant que les chrétiens aient obtenu l'autorisation de construire l'église. Donc, voilà, il y a des problèmes de ce style-là. L'occupation de l'espace public, les processions ont été des sources de conflits et d'émeutes antichrétiennes très fréquentes. La procession qui se tenait en général, c'était la procession du dimanche des rameaux, et on a plusieurs témoignages en Égypte, en Syrie, d'émeutes contre les chrétiens au moment de la procession des rameaux. Donc la procession, c'est quelque chose qui a été très difficile à mettre en œuvre dans les villes. Ici, donc, à Alep, en avril 2009, j'ai assisté à la procession de Saint-Georges dans les rues du quartier Azizieh, avec les scouts que vous voyez, les filles en pantalon, hein, portent les drapeaux, et les garçons avaient des gros bâtons pour assurer le service d'ordre. Et vous ne l'entendez pas, mais il y a une fanfare, vous la voyez sur une des images, qui envahissait de façon sonore tout le quartier. Sachant qu'il y a une très grande mosquée juste à côté, et qu'il y a une mixité de la population quand même dans le quartier. Bien, donc, voilà un peu sur cette question de l'occupation de l'espace. Ce qui est encore important dans cette question du statut du Zimmi, c'est la question du statut personnel. Et aujourd'hui encore, ça constitue à la fois le cœur de ce qu'on appelle le droit musulman et aussi le cœur de ce qui fait l'identité chrétienne dans ces pays. Donc, et c'est aussi la source principale des complications dans les relations entre musulmans et non-musulmans. Les non-croyants étaient et sont encore souvent censés suivre leurs propres règles attribuées, arbitrées par leur évêque ou par leur rabbin, ceux qui ne posent pas de problème particulier tant qu'on reste dans la même communauté. Donc si un maronite épouse une maronite, ça va, l'évêque maronite règle les questions, et s'il y a des conflits, ça se règle entre soi. Évidemment, lorsque c'est des mariages mixtes entre musulmans et chrétiens, les choses sont beaucoup plus compliquées, mais même lorsque c'est entre deux obédiences chrétiennes, ça pose déjà plein de problèmes, et très souvent ça aboutit à un arbitrage de la part de la justice musulmane. Donc, au XVIIIe siècle, on a pas mal d'affaires de mariages, des mariages chrétiens enregistrés devant le juge musulman. On se demande pourquoi. Et une des raisons, c'est lorsque ce sont des mariages mixtes de chrétiens d'obédience différente, ils préfèrent avoir un enregistrement du mariage devant le qadi. Et l'autre raison, c'est les conflits avec l'évêque ou avec le patriarche qui veut empêcher un mariage. Donc s'ils veulent empêcher un mariage, on va devant le juge musulman qui l'accepte. Et après, on revient chez l'évêque avec le certificat du juge musulman. Donc, ça vous indique une chose, c'est le fait qu'il y a une espèce d'érosion du pouvoir du clergé dans cette situation, parce qu'il y a constamment possibilité de recourir à une autre autorité. Alors, un non-musulman ne peut en aucune façon avoir commerce avec une musulmane ni l'épouser. L'inverse, par contre, est autorisé pour le musulman. Il y a la question de l'appartenance religieuse des enfants nés de couples mixtes, notamment après la conversion d'un des deux époux. Et ça, ça a donné lieu à une importante casuistique dans le droit musulman, en général toujours en faveur de l'islam. En matière de succession, un musulman ne peut en aucun cas hériter d'un non-musulman et inversement. Et vous voyez que les cas de mixité et ou de conversion à l'islam créent des situations complexes en matière de transmission des biens, pour lesquelles les juristes ont proposé des solutions généralement favorables aux musulmans. Alors, ce sont des questions, c'est vraiment le cœur, je crois, des conflits très souvent. Un mot sur les conversions. Normalement, comme vous le savez, le Coran le dit, pas de contrainte en matière de religion. On ne peut donc pas convertir quelqu'un par la force. Alors, on sait évidemment qu'il y a eu plein de circonstances où il y a eu des conversions par la force. Et la semaine prochaine, ça tombe assez bien, Selim Derignil va revenir sur ces questions-là et vous parlera certainement des conversions par la force au XIXe siècle, notamment les Arméniens qui ont été contraints de se convertir par la force. Alors, le fait qu'il y ait un statut personnel des chrétiens aboutit aussi à l'idée qu'il y a une autonomie des minoritaires sous la conduite de leur clergé, que pour les affaires de mariage, d'enfants, de patrimoine, ils se gouvernent eux-mêmes suivant leurs propres lois. Et il est généralement affirmé que cette autonomie a été renforcée par la conquête ottomane de Constantinople, Mehmed II, qui aurait explicitement confié les communautés chrétiennes à leurs dirigeants religieux, notamment au patriarche des Grecs et au patriarche des Arméniens, qui auraient eu une juridiction sur les chrétiens de l'Empire, et donc une compétence dans ces questions. Et chaque communauté aurait ainsi constitué une milète, c'est-à-dire une structure institutionnelle autonome. Alors aujourd'hui, les historiens contestent cette vision. D'abord, on n'a jamais trouvé la preuve que Mehmed II a effectivement délégué ce pouvoir au patriarche grec. Et pour le patriarche arménien, alors là, c'est complètement, c'est encore beaucoup plus douteux. Le patriarche arménien de Constantinople n'a vraiment pris de pouvoir qu'au XVIIIe siècle. Donc, en tout cas, ce n'est que progressivement, sans doute, au cours du XVIIIe siècle, que ce type d'organisation a émergé sous l'effet de la politique ottomane et du renforcement de l'autorité et de la cohésion à l'intérieur des églises. Et progressivement, l'infériorité du zimmi dans le système du droit musulman s'est mutée en privilège, notamment lorsque le minoritaire est devenu éligible à la protection, à une autre protection, c'est-à-dire à la protection des puissances européennes, notamment la France, la Russie et la Grande-Bretagne, plutôt pour les Juifs. Donc le système des milètes est plutôt typique du XIXe siècle, de la phase des réformes de l'Empire ottoman, dont Selim Derignil va vous parler la prochaine fois. Alors, cette ère des réformes s'est ouverte par un décret de 1856, dont le contenu avait été largement dicté au sultan par la France et l'Angleterre. Enfin, il y a des discussions là-dessus, au moment de la guerre de Crimée. Le texte affirmait sa conformité à la tradition, mais il innovait tout en maintenant un certain degré d'ambivalence. Il autorisait l'érection d'édifices confessionnels, d'églises, d'hôpitaux et d'écoles, mais il laissait la porte ouverte à certaines restrictions et à l'autorisation préalable du sultan. Et c'est en gros ce qui s'applique encore en Égypte aujourd'hui. Le sultan d'Égypte, le regretté Moubarak ou le souhaité Sissi, exerce les pouvoirs du sultan dans ce domaine-là et attribue de façon arbitraire le droit ou non de construire une église. Ce texte évoque aussi explicitement les pouvoirs que le sultan Mehmed II aurait confiés aux évêques et aux patriarches. Donc, il fait allusion à ça. De fait, à ce moment-là, chaque millet, chaque groupe de chrétiens, chaque communauté élabore une nouvelle constitution. Et la porte, le gouvernement ottoman, impose que le clergé devienne salarié, que la gestion des biens et des revenus de chaque millet soit transférée à un conseil de notables laïcs. La capitation est abolie, mais une nouvelle taxe qui compense l'absence d'obligations militaires pour les non-musulmans est introduite. Et là aussi, il y a des discussions. Si ça se trouve, cette nouvelle taxe était plus élevée que l'ancienne capitation. En tout cas, il y a des protestations. et puis des tribunaux mixtes où siègent des non-musulmans remplacent la juridiction des cadis en cas de litige entre des membres de confessions différentes. Donc lorsqu'il y a un conflit entre un musulman et un juif ou un chrétien, ce n'est plus le tribunal musulman qui est compétent, c'est un tribunal mixte. Par contre, les tribunaux ecclésiastiques étaient dépouillés de leurs compétences en matière de droit personnel, mariage et succession, au profit des tribunaux d'État, sauf si les parties concernées demandaient explicitement que la cause fût jugée par le clergé. Et en fait, ces tribunaux se sont maintenus alors que dans le projet, ils devaient disparaître, il devait y avoir un droit ottoman unifié. Alors, cette politique de réforme a été reprise et amplifiée par les jeunes turcs après la révolution de 1908 et visait à renforcer un État sécularisé au moyen du principe de l'égalité devant la loi. Ce principe devait aider à gagner l'adhésion des citoyens à l'idée d'une nation ottomane, aux dépens des autres affiliations, notamment communautaires. Alors, ce projet a en grande partie échoué, parce que l'organisation de la population sur des bases religieuses s'est maintenue, et même parfois renforcée, notamment par l'effet des institutions éducatives et caritatives confessionnalisées. D'autre part, à ce moment-là, il y a les structures communautaires s'imprègnent d'idées nationalistes différentes. Donc il y a un nationalisme hellène, bulgare, turc, arménien, assyrien, arabe, et ces nationalismes deviennent concurrents et s'imposent face à l'idée d'une citoyenneté ottomane. Et donc tout ça va aboutir aux défaites de l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale et au démantèlement final de l'Empire après la guerre. Et donc cette question de la nation devient de plus en plus importante au cours du XXe siècle. Cette disparition de l'Empire ottoman n'a rien résolu, a au contraire ouvert la question. Dans un régime impérial, qu'il y ait des inégalités, des discriminations, c'est normal. C'est un régime fondé sur la hiérarchie. Il y avait une discrimination entre musulmans et non-musulmans, mais il y avait plein d'autres discriminations et plein d'autres hiérarchies dans ce système impérial. À partir du moment qu'on est dans un système de nation qui affirme que tous les citoyens sont égaux devant la loi, il ne peut plus y avoir d'exception. Ou alors les exceptions n'appartiennent plus à la nation. Donc ça pose le problème de la définition de la nation. Et c'est ce problème-là qui se pose beaucoup plus fort depuis la Première Guerre mondiale. Alors on ne va pas avoir le temps de passer ça en revue. Mais je vais revenir à la carte. Bon, on va laisser l'Égypte. Il y a un problème national en Égypte. C'est-à-dire que les Coptes, le mot copte même veut dire égyptien, donc les Coptes se sentent profondément égyptiens. Ils ne se considèrent pas comme une minorité, ils se considèrent même comme les vrais égyptiens. Mais il y a un problème national en Égypte dans la mesure où il y a une pensée qui n'imagine pas un citoyen égyptien, mais qui imagine une Égypte avec deux communautés qui doivent cohabiter et l'arbitrage du raïs entre les deux communautés. Hein. Alors quand on voit la croix et le croissant, la Bible et le Coran ensemble dans les manifestations, on peut dire voilà, toute l'Égypte est rassemblée, mais on peut se dire aussi il y a deux communautés qui provisoirement se montrent l'une ensemble. Ce sont pas les citoyens égyptiens, ce sont les membres de deux communautés qui se mettent ensemble. Hein, je veux dire, en France, quand il y a une manifestation, la question, pour le moment du moins, ne se pose pas de gens qui exhibent la Bible, le Coran et la Torah ensemble dans la manifestation. La citoyenneté française ne se définit pas comme ça. Dans les autres pays, évidemment, la question est encore beaucoup plus problématique, parce que les frontières ont été faites de telle façon que forcément c'est problématique. Alors il y a évidemment le problème d'Israël, le problème palestinien, hein, un État qui s'est constitué sur le territoire d'un autre État et qui a expulsé une partie de sa population, dont aussi des chrétiens. Et puis, il y a la question du Liban, il y a la question de l'Irak, de la Syrie, etc. Je peux pas les passer tous en revue. En tout cas, vous voyez aussi sur cette carte que les frontières des églises ne coïncident pas avec les frontières des États. Si vous prenez, par exemple, un patriarche de Damas, disons le patriarche syrien orthodoxe de Damas, la petite croix noire ici. Le centre historique de son église et symbolique de son église se trouve dans l'actuelle Turquie du côté de Mardin ici, où il y a encore des monastères, mais où il n'y a pas plus que peut-être 2000 fidèles. Par contre, une partie des chrétiens de cette région-là ont migré à Istanbul et ont constitué une communauté plus importante à Istanbul. Ces Syriaques de Turquie sont de plus en plus turcs, parlent le turc, se sentent turcs. Par contre, le patriarche, lui, il est l'otage du régime baasiste de Syrie depuis 40 ans et il est évidemment nationaliste arabe, dans la même église, hein. Donc vous voyez le genre de problème que ça peut poser. On peut prendre le patriarche orthodoxe, grec orthodoxe de Damas, là encore, c'est un patriarche complètement affilié au régime baasiste depuis très longtemps, depuis la révolution baasiste à peu près, mais une partie de ses fidèles est au Liban. Les orthodoxes du Liban, aujourd'hui, sont plutôt dans le camp anti-syrien, les députés orthodoxes du Liban. Et un des grands journaux libanais, El-Nahar, appartient à une famille orthodoxe, à la famille Touaini. Le patron d'El-Nahar, Gibran Touaini, a été assassiné sans doute par les Syriens. Le patriarche de son église, le patriarche grec orthodoxe de Damas, n'est pas venu à son enterrement. Donc, vous voyez comment se posent les problèmes nationaux. Ce sont des problèmes qui se posent par la structure même de l'Église, par rapport à la structure des États. Et après, il y a encore la question des identités. Je veux dire, est-ce que on peut revendiquer une identité syriaque en Syrie ou pas? Alors, il y a eu des périodes où on a pu, il y a des périodes où on n'a pas pu. Il y a des périodes où il fallait être complètement arabe, il y a des périodes, au contraire, où le côté syriaque a été même mis en valeur par le régime baasiste. Le même genre de question du côté du régime baasiste de Saddam Hussein, qui a été persécuteur envers les minorités qui se revendiquaient syriaques à un certain moment, mais qui a aussi passé des compromis avec eux. Et ces églises se divisent sur ces questions-là. En Irak, par exemple, la majorité de l'église assyro-chaldéenne est chaldéenne, c'est-à-dire catholique, est plutôt urbaine, et elle a passé un pacte avec Saddam, donc elle s'est déclarée arabiste, etc., alors que les Assyriens orthodoxes, eux, ont plutôt fait de l'opposition, ont plutôt revendiqué une différence et n'ont pas voulu être assimilés à l'arabisme de Saddam. Depuis la chute de Saddam, il y a le Kurdistan autonome et il y a des Assyriens qui veulent constituer un territoire autonome, voire indépendant, à l'ombre du Kurdistan. Il y a un projet politique dans la plaine de Ninive, donc sous la protection des Kurdes, mené par un certain nombre de ces Assyro-Chaldéens. Bon, on pourrait continuer du côté du Liban. Vous savez que au Liban, la majorité maronite s'est identifiée à ce pays depuis très longtemps. On peut dire que la célébration du Liban par les maronites et la prise de conscience du Liban comme leur pays remonte sans doute à Jibreïl ibn al-Kilaï au début du XVIe siècle. Cette identité s'est construite ensuite au XVIIe siècle, et puis au XIXe, la phase romantique où Lamartine et compagnie venus admirer ces braves paysans pieux qui vivaient dans la montagne, qui n'ont jamais été conquis, qui ont toujours résisté à tous les envahisseurs, etc. Donc toute une mythologie autour de ça qui a abouti à la création du Grand Liban en 1919. À la demande du patriarche maronite. Donc un État spécialement conçu par les maronites, mais les maronites ne sont quand même pas tout seuls au Liban. Hein. Il y a la vallée sainte dont je vous ai montré l'image tout à l'heure, où ils peuvent être vraiment entièrement entre eux, mais autrement, beaucoup de maronites vivent dans des situations de mixité, dans le Chouf, dans le Matan, ou dans la Bekaa, et donc partagent leur voisinage avec des chiites ou avec des sunnites. Et d'autre part, du point de vue politique, le Liban tel qu'il a été défini en 1919, il a fallu que les maronites passent des compromis avec les autres forces du pays, notamment avec les sunnites et avec les chiites, hein, donc le pacte national qui a plus ou moins tenu jusqu'en 1975. Donc il y avait une espèce d'idée chez les maronites que eux incarnaient le Liban, un Liban pluraliste, mais qu'ils étaient plus libanais que les autres ne pouvaient pas être aussi libanais qu'eux. Hein. Donc tout ça, ça a abouti à la guerre de 75, puisque les maronites s'identifiant au Liban, alors que islamo-progressistes s'identifiant à la cause arabe et donc au contraire rejetant les frontières du Liban de 1919. Aujourd'hui, je crois que toutes ces questions-là, toutes ces questions nationales au Liban, en Syrie, en Irak sont en crise. Donc ce modèle national lié au nationalisme arabe, etc., tout ça c'est en crise et on a du mal à inventer un autre modèle. Ça se voit bien chez les Grecs catholiques et orthodoxes qui, disons, avec ce qui se passe en Syrie, n'ont pas de solution de rechange, sont toujours attachés au nationalisme arabe qui était le paradigme grec catholique et orthodoxe depuis très longtemps. Et il n'y a pas de vision qui émerge pour le moment sur une autre conception de la nation ou une autre intégration dans la société régionale. Bon, alors je vais faire une petite conclusion sur un autre sujet parce que c'est un peu trop politique. Donc la dernière chose, c'est que ce christianisme local est un christianisme qui est très proche quand même de l'islam par pas mal de choses. Les chrétiens ont vécu discriminés, ils le sont encore en partie aujourd'hui, mais en même temps ils partagent aussi un mode de vie, une culture et des croyances avec leur entourage musulman. Et c'était plus vrai tant que les chrétiens étaient ruraux aussi, parce que, les questions de pluie, d'orage, de sauterelles, le mauvais temps, etc. Tout le monde était face aux mêmes éléments et tout le monde priait ensemble pour éloigner les sauterelles ou pour faire tomber la pluie. Hein. On a des exemples de cérémonies où chrétiens, juifs et musulmans font une procession ensemble pour éloigner les sauterelles ou pour faire tomber la pluie. Il y a un rituel dans l'islam qui s'appelle istisqa pour faire tomber la pluie et les chrétiens étaient généralement associés à ce rituel. Donc il y avait un terroir et il y avait la perception du terroir qui était la même quelle que soit la religion. Par exemple, même le partage de l'année, les deux fêtes très importantes chez les chrétiens, c'est Saint-Georges et Saint-Dimitri. Saint-Georges, à la fin du mois d'avril, débute la saison chaude. Saint-Dimitri, en octobre, met fin à la saison chaude. Ce sont deux saints cavaliers. Hein, mais Saint-Georges, encore aujourd'hui, est une fête nationale en Turquie. Bien sûr, pas sous le nom de Saint-Georges, mais c'est... Ça s'appelle Khidrilat, la fête. Oui. Et en Syrie, c'est une fête nationale aussi. C'est la fête des Shuhada, la fête des martyrs. Donc vous voyez qu'il y a un rapport avec Saint-Georges. Donc voilà, c'est ce rythme-là, c'est un rythme que tout le monde partage. Le calendrier musulman est un calendrier lunaire. Il faut un calendrier solaire pour faire rentrer les impôts fonciers, etc. Donc voilà, il y a des points comme ça en commun. En Égypte, ce sont le rythme des crues du Nil. Les fêtes des saints chrétiens et musulmans sont liées au calendrier des crues et des récoltes. Dans le domaine urbain, les chrétiens, les juifs et les musulmans appartenaient souvent aux mêmes corporations et donc partageaient la même éthique dans le métier, font un serment, chacun faisait le serment sur son livre saint à l'entrée du métier. Évidemment, il y avait des métiers discriminants. Un chrétien ne pouvait pas être boucher. Par exemple. Mais d'autres métiers, comme boulanger, ils y étaient très nombreux. À Alep, les tailleurs de pierre étaient très souvent chrétiens, mais les chefs de la corporation étaient des musulmans. Si on se place du point de vue théologique, aux origines même du Coran, il y a des sources chrétiennes, dont on discute beaucoup aujourd'hui dans les milieux érudits. Mais le Coran, en tout cas, offre des images, des beaux passages sur la Vierge, sur le Christ, sur Yahya, Saint Jean-Baptiste, qui sont aujourd'hui à la base de tentatives de dialogue islamo-chrétien. Après avoir été longtemps, au contraire, le cœur de la controverse entre chrétiens et musulmans, aujourd'hui, on essaye de mettre ça en avant pour instituer le dialogue. Par exemple, au Liban, on vient d'instituer, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, la fête de l'Annonciation, épisode commun au Coran et à l'Évangile. Donc on a fait de l'Annonciation une fête nationale. Je ne crois pas que ça règle vraiment les problèmes du Liban, mais pour vous dire. Hein. D'autre part, je ne suis pas sûr que l'épisode de l'Annonciation ait le même sens dans la théologie musulmane et dans la théologie chrétienne. Bon. Donc je ne sais pas si c'est pas une impasse, mais en tout cas, sachant la proximité des textes, les théologiens des deux bords ont travaillé d'arrache-pied au premier siècle de l'islam pour construire une orthodoxie fondée sur des sens divergents de ces passages. Hein, au début, on voyait bien qu'il y avait une proximité et on a travaillé des deux côtés pour essayer autant que possible pour faire diverger les interprétations, pour qu'on puisse pas mélanger les torchons et les serviettes. Aujourd'hui, au contraire, notamment du côté chrétien, on essaye d'avoir une théologie plus convergente. Mais on n'a pas toujours d'interlocuteur du côté musulman. En tout cas, il y a une circulation, une pénétration des religions, malgré tout, et le christianisme arabe est marqué par la proximité, en même temps que par le travail de différenciation par rapport à l'islam. Je vais vous donner un exemple, voilà la fuite en Égypte. La fuite en Égypte représentée donc à Yabroud, dont on a parlé ces jours-ci aussi, dans une icône, et dans une icône égyptienne de Al-Mu'alaka, toutes les deux du XVIIIe siècle. Alors, le Coran, vous savez que la fuite en Égypte dans l'Évangile apparaît à peine, il y a juste une phrase dans l'Évangile de Matthieu sur le fait que la Sainte Famille est partie en Égypte. Le Coran ne rapporte pas non plus la fuite en Égypte, mais des épisodes miraculeux de l'enfance de Jésus qui sont en général rattachés à cette fuite. Et que le texte sacré musulman rattache par contre, non pas à la fuite en Égypte, mais à la nativité, donc à la sourate de Mariam. Par exemple, dans les versets 24-25 de la sourate de Mariam, il y a l'histoire du palmier qui penche pour donner ses dates à la Vierge. Vous voyez le palmier qui penche, là, hein ? Donc, cet épisode-là, a passé du Coran chez les chrétiens. Donc, il y a des thèmes, les thèmes liés au cycle de la Vierge se sont développés en même temps dans le christianisme et dans l'islam. L'islam s'est fait porteur de traditions crypto-évangéliques que les chrétiens ont abandonnées, mais qui après sont revenus chez les chrétiens en passant par l'islam. Dans l'autre, il penche pas. Alors, c'est pas l'épisode du palmier qui penche. C'est un autre épisode. Donc, le thème de la fuite en Égypte s'est développé parallèlement avec des épisodes communs qui ont pu influencer les uns les autres. Les chrétiens et les musulmans se sont entendus pour faire de l'Égypte une terre sainte, lieu vénéré par les Coptes comme lié au passage de la Sainte Famille. Ils ont parfois bénéficié de la vénération des musulmans et parfois le pouvoir des sultans, notamment à l'époque des Mamelouks, a fortement investi dans le principal lieu de séjour de la Sainte Famille en Égypte, qui est la Mataria, au nord du Caire, pour en faire un lieu de propagande et pour y attirer le tourisme religieux, notamment des Européens. Et pour le bimillénaire, en 2000, le gouvernement égyptien a encore essayé de relancer le lieu par la communication touristique et par une restauration pas très réussie. Et quand j'y suis allé, ça faisait pas trop envie comme lieu touristique. Bon, on pourrait donner d'autres exemples plus récents après la défaite de 67. Il y a eu les apparitions miraculeuses de la Vierge à Zeytoun, dans un quartier du Caire, qui ont servi à affirmer l'Égypte comme terre sainte en concurrence avec Israël, où il devenait impossible de se rendre. Donc, voilà un exemple, un autre exemple. On a parlé tout à l'heure de Khidr. Voilà le tombeau de Khidr dans la citadelle d'Alep. Donc, quand j'ai fait la photo en 2009, vous voyez, le tombeau est complètement islamisé. Il y a tous les signes d'un catafalque musulman. Mais Khidr est un personnage légendaire évoqué dans le Coran, qui est généralement confondu et assimilé à Saint-Georges et à Saint-Élie. Et les lieux consacrés à ces deux saints chrétiens sont aussi, depuis longtemps, des lieux de pèlerinage où les musulmans viennent vénérer El Khidr. Et pour Élie, c'est un lieu de pèlerinage pour les juifs, pour les chrétiens et pour les musulmans. Ce sanctuaire, ce tombeau dans la citadelle d'Alep a été, on a beaucoup de témoignages, a été longtemps vénéré par les musulmans comme Khidr et par les chrétiens comme Saint-Georges. Aujourd'hui, plus aucun chrétien ne se rend sur ce tombeau qui est devenu purement Khidr. Et vous savez même que chez les musulmans aujourd'hui, il y a une contestation du culte des tombeaux. Hein. Donc même beaucoup de musulmans ne veulent plus se rendre sur les tombeaux. Pour vous donner un autre exemple, au Mont Carmel, il y avait la grotte d'Eli qui était vénérée aussi comme un sanctuaire de Khidr, où au XVIIIe siècle, un derviche musulman accueillait les pèlerins chrétiens, juifs, musulmans, druzes, parce qu'il y a aussi des druzes dans le coin, et il sacrifiait un mouton qu'il leur vendait, et il dormait là, etc. J'ai essayé d'y aller l'année dernière. Maintenant, cette grotte du Mont Carmel est tenue par des juifs orthodoxes et personne en dehors de juifs peut s'y rendre. Alors, souvent dans ces endroits-là, les gestes de prière étaient aussi les mêmes. On enlève les chaussures à l'entrée du sanctuaire, on touche le tombeau ou l'image, on sacrifie un animal, etc. Ça, c'est quand on regarde un peu de loin. Quand on va voir de près, il y a des différences quand même entre ce qu'un musulman, un chrétien ou un juif fait au même endroit. Il y a à la fois des signes communs, il y a en même temps des signes de distinction. Et il faut aussi bien regarder les calendriers. Quand y vont les uns et quand y vont les autres. En général, ils n'y vont pas ensemble. Donc, il y a similitude, proximité, mais il y a aussi compétition et différenciation dans ces endroits-là. Et je vais terminer avec un dernier exemple. Ça, c'est une très belle maison qui se trouve, c'est le décor d'une qara, d'un salon à Lépin du XVIIe siècle qui a été reconstruit et restauré au musée d'art islamique de Berlin. Avec une décoration qui est d'inspiration ottomano-persane. Et vous voyez ici, au-dessus de la porte, il y a une inscription. Et vous voyez, je vous avais mis tout à l'heure une formule qui faisait penser à un bismillah. Ici, vous avez un autre bismillah. Bismillah el-Khalik el-Hay el-Natik. Un musulman qui arrive, il lit bismillah, il s'arrête là, il voit sans doute pas le feu, surtout que el-Khalik el-Hay el-Natik sont des noms donnés par les musulmans à Dieu. Mais pour le chrétien, ça évoque la Trinité. El-Khalik, le créateur, el-Hay, le vivant, el-Natik, le parlant. Hein? Donc vous voyez, c'est une formule qui peut être ambiguë. Alors on se dit, le marchand chrétien qui a fait construire cette maison au début du XVIIe siècle, il a trouvé la formule ambiguë qui permet d'accueillir aussi des musulmans chez lui, des chrétiens ou des musulmans. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette même formule, on la trouve sur des manuscrits de moines alépins au Liban, donc dans des textes qui n'étaient pas du tout destinés aux musulmans. Donc c'était pas une stratégie du double jeu, c'est une formule qui était vraiment intégrée dans le christianisme alépin et qui était courante dans le christianisme alépin à cette époque-là. Sur ce décor, vous voyez que comment les personnages sont traités. Vous voyez cette espèce d'auréole en forme de flamme qui est typique en fait de la représentation du prophète dans l'islam. Donc vous avez une madone avec l'enfant Jésus à gauche, traité dans un décor persan. À droite, vous avez le sacrifice d'Abraham. Et c'est intéressant parce que ce sacrifice d'Abraham est la version coranique du sacrifice d'Abraham. Dans la version coranique, c'est un ange qui apporte le bélier qui remplace Isaac. Un ange apporte le bélier du ciel. Dans la version chrétienne, le bélier est pris dans un buisson. Je ne vais pas vous le montrer, mais dans une icône du sacrifice d'Abraham peinte un siècle après à Alep, le bélier est retourné à sa place. Il est dans le buisson, il n'est plus apporté par un ange. Donc il y a un retour à l'orthodoxie chrétienne à ce sujet-là. Alors je vais m'arrêter là, donc disons peut-être cette dernière allusion pour dire que je pense qu'il y avait beaucoup plus de passerelles, et beaucoup plus de liens et beaucoup plus de proximité, même en matière de théologie, de pratiques religieuses au XVIIe, XVIIIe siècle qu'aujourd'hui, que ces choses-là sont devenues beaucoup plus difficiles aujourd'hui, parce que des deux côtés, il y a eu la confessionnalisation, c'est-à-dire un enseignement religieux, une normalisation des pratiques qui ont fait que les gens sont devenus plus conscients et se sont éloignés les uns des autres. Voilà, je vais m'arrêter là, merci.